Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Violence conjugale, violence au sein du couple, coups, insultes, dévalorisation, manipulation et domination qui démolissent le lien entre partenaires intimes, menaces et agressions qui peuvent se produire au-delà de la séparation. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de ces violences physiques, psychiques, sexuelles qui font irruption ou s'installent au sein du foyer, dans la chambre à coucher, et poursuivent certaines femmes, y compris lorsqu'elles ont eu le courage de dire « ça suffit ». Des actes subis et parfois tués par peur, parce qu'ils sont associés chez certaines victimes à une forme de culpabilité, aux craintes de faire voler en éclats la famille. Des violences répétées, parfois sur une longue période, des années de sévices, au nom d'un attachement ravivé à force de promesses et de plus jamais ça. Prendre la mesure, porter plainte, dénoncer, se protéger, mettre les enfants à l'abri, se soigner, se reconstruire. La prise en charge de ces violences conjugales est multiple et complexe, les témoignages éprouvants et pourtant communs, de terribles témoignages de femmes et d'auditrices à qui nous allons donner la parole au cours de cette émission. Violences faites aux femmes, violences conjugales, brutalité physique ou verbale d'un mari, d'un compagnon, d'un ancien conjoint. Pour en parler avec nous, docteur Gilles Lazimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste au centre de santé de la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis et ancien membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, conseil au sein duquel vous avez siégé entre 2013 et 2019. Docteur Lazimi, vous êtes également professeur associé de médecine générale à l'université Sorbonne Université. Donnez la parole aux victimes et aux anciennes victimes. Soraya Guerras Navarro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes styliste, socio-conseillère en images. Et cette violence, eh bien, elle est aujourd'hui derrière vous. Vous allez tout à l'heure nous raconter votre histoire. Dépister, prendre en charge ces violences, nous retrouverons Fatima Le Griguère, psychologue clinicienne, coordinatrice d'une unité de psychotraumatisme au sein du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, coordinatrice violences faites aux femmes pour le site pilote régional de psychotraumatisme Paris Nord. Et on va partir aussi pour le Sénégal. Retrouvez Ndaye Fatou Faye, psychologue clinicienne, secrétaire exécutive de l'ONG Centre de Guidance Infantile et Familiale de Dakar. Violences faites aux femmes dans leur intimité et lutte pour les droits. On va retrouver en fin d'émission la militante kényane Nice Nailantai qui se bat contre l'excision depuis son plus jeune âge. Nous l'avions rencontrée lors d'une récente visite à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Alors tout à l'heure, on va entendre des témoignages de femmes, des témoignages d'auditrices qui nous ont appelés. Et votre témoignage, Soraya Guerras Navarro, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que ces violences, elles appartiennent à votre passé ou vous les transportez tous les jours avec vous?
C'est un petit peu les deux, je dirais. Elles font partie de mon passé, certes, mais elles sont encore présentes dans ma vie quotidienne. Parfois, je subis encore, comme vous le disiez si bien, des insultes gratuites d'anciens conjoints, par exemple. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'on traîne malgré nous.
Mais ce sont de vraies insultes de vraies que vous insultes. Entendez ou ce sont des souvenirs de ces insultes?
Non, ce sont des vraies insultes.
Vous n'avez pas encore réussi à écarter toutes les personnes nuisibles, toutes ces personnes toxiques qui vous agressent verbalement? Quand je dis réussi, je ne dis pas que c'est mal de votre part. Ce que c'est compliqué.
J'entends bien, c'est d'autant plus compliqué que ça fait partie de ma vie et de ma famille. En fait, c'est le père de mon plus petit. Donc, c'est encore très présent.
Ça veut dire, Soraya Guerras Navarro, qu'il est toujours présent, qu'il est toujours là?
Bien sûr, il est toujours en vie et c'est tant mieux. Je veux pardonner et je lui pardonnerai encore, en fait. Parce que je pense que tout bourreau a lui-même été victime de violence. On n'est pas là pour parler de ça, mais je pense que c'est un schéma qu'il reproduit et dont il n'arrive pas à se détacher, en fait.
Donc, vous avez été victime, donc vous l'êtes encore. À partir de quel moment? Est-ce qu'il y a eu un événement où vous vous êtes dite, là, maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça?
Oui.
C'était quoi?
C'était une énième querelle, une énième altercation qui montait crescendo en violence, c'est-à-dire que moi-même, qui ne suis absolument pas ni vulgaire, ni violente, ni bagarreuse dans les actes physiques, j'étais arrivée à ce niveau-là d'attaque contre attaque, en fait. Je contre-attaquais aussi fort que lui, sauf que j'ai un corps d'oiseau, en fait. J'ai un corps de femme et lui a un corps d'homme avec 10 années de boxe.
Vous aviez peur de lui?
J'avais très peur de lui.
Docteur Gilles Lazimi, protéger, prendre en charge, écouter hein, d'abord, bien sûr. Comment est-ce qu'on définit le rôle du médecin face à ces risques, face à ces violences conjugales? Soraya, je vais vous redonner la parole dans un petit instant.
Le rôle, il est essentiel, il est dans la confiance, dans une relation duelle, de permettre à ces femmes de dire ce qui est indicible, de parler de souffrance, de parler de violence, de parler de choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas penser, recevoir des coups, être violé, être insulté, être humilié au quotidien pendant des années, c'est très difficile à dire. Il faut que le médecin puisse être en capacité de poser la question. Avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles? Et dès l'instant où on pose la question, on permet à ces femmes, en confiance, dans le secret, de pouvoir révéler ce qu'elles vivent. Et là, on va remettre les choses à l'endroit et on va les aider à comprendre qu'elles ne sont en rien responsables des violences qu'elles subissent et qu'on peut les aider.
Vous vouliez dire quelque chose?
Oui, parce que le déclic, ça a été le fait que cette violence-là, que je subissais moi et que mon enfant, le plus petit principalement, parce que j'en ai deux, d'une précédente union, n'était pas tout le temps là. Et du coup, les altercations ne se passaient pas en sa présence. Donc, mon petit dernier a été victime de sa violence. Et là, moi, j'ai dit stop.
Ça a été l'enfant.
Ça a été l'enfant et ma protection et mon rôle de mère.
Alors, on va vous retrouver dans quelques instants. Hein. Question aussi, il y a le témoignage, il y a raconter des histoires qui sont, on l'a compris, très difficiles à dire. Et puis aussi la connaissance de la situation, de l'ampleur du phénomène. Il y a des chiffres et au-delà de ces chiffres, il faut rendre une identité aux victimes. Nous sommes en ligne avec Titiou Lecoq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, nous avons enregistré cet entretien et vous êtes à l'origine, Titiou Lecoq, d'un recensement effectué dans les colonnes du quotidien Libération depuis plus de 2 ans maintenant, recensement de meurtres conjugaux. Au mois de janvier dernier, vous avez passé le relais en témoignant d'un travail souvent douloureux.
Oui, c'est un sujet extrêmement difficile à faire et qui était aussi difficile parce que dans mon travail, c'était pour chaque féminicide, je cherchais le maximum d'informations sur la victime parce qu'on est toujours beaucoup sur les coupables, mais moi je voulais savoir qui elles étaient, quel âge elles avaient, ce qu'elles faisaient comme travail, et si elles avaient des enfants, où étaient les enfants quand ça s'est passé. Et là, on touche des choses qui sont très difficiles. Et l'effet de liste, effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je crois qu'il faut que quelqu'un d'autre prenne la relève.
Alors, vous égrenez leurs prénoms au fil des semaines. Séverine, Nadia, Jessica, Sylvie, Candice, Catherine. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on se familiarise avec ces femmes pour qui il est déjà trop tard.
Oui, puis c'est terrible. Il y a des histoires pour lesquelles on a le plus de détails. Comment ça nous hantait. Moi, il y a vraiment des histoires qui m'ont hantée. Je me souviens notamment d'une femme dont le décès est lié à un viol conjugal qui a entraîné sa mort. Et son mari, là, d'abord, a déclaré que c'était des cambrioleurs qui étaient arrivés chez eux.
Des femmes, hein, c'est un point commun, c'est ce que vous écrivez, des femmes qui sont considérées comme des propriétés par ces hommes qui partagent ou qui ont partagé leur vie.
Oui, alors évidemment, eux, ils parlent pas de propriété, ils parlent d'amour, toujours. Et en fait, c'est vraiment des rapports de domination. C'est l'idée, elle ne peut pas m'échapper. Et le moment où ça craque, c'est quand les femmes décident de partir. Et la majorité des homicides se passent au moment de la séparation ou juste après la séparation. Si ça avait été vraiment des chagrins d'amour, bah, ces hommes se seraient peut-être suicidés parce qu'ils disent tous « je ne pouvais pas vivre sans elle ». Et ils se suicident pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les tuent, elles. Et c'est pas « je ne pouvais pas vivre sans elle », c'est plutôt l'idée de « je ne veux pas qu'elle vive sans moi ».
Et y compris, parfois, en s'en prenant aux enfants, toujours avec ce même argument.
Et ça, ouais, alors c'est ce qu'on appelle, c'est terrible comme expression, les victimes collatérales. Il y a beaucoup d'enfants sont présents pendant le meurtre de leur mère. Ils peuvent être victimes également. Il y a deux cas. Soit ils tuent les enfants et pas leur femme, mais qui est une manière de se dire, bah, elle s'en remettra jamais, j'ai tué nos enfants. Ça, ils l'assument assez bien dans leur discours. Ou l'idée de j'ai tué mon épouse et donc les enfants s'en sortiront plus sans la mère. Donc bon, les enfants y passent aussi.
Et il y a aussi tout un tas d'idées fausses qui sont relayées, y compris par l'opinion publique, y compris par les médias, y compris par le système policier ou judiciaire.
Oui, alors je pense vraiment que les médias, on a une énorme responsabilité, ne serait-ce que quand, parce que la presse quotidienne régionale parle à chaque fois de ces affaires, mais dans la case faits divers. Moi, dans mon travail, en les recensant, en les regroupant toutes, c'était de montrer, en fait, si on fait la liste de tous ces faits divers, ça n'est plus un fait divers, c'est un problème de société. Ça dit quelque chose sur nous, sur les rapports hommes-femmes, sur notre vision du couple, de ce qu'on accepte ou pas. Et donc, on doit s'en emparer comme un sujet voilà commun à la collectivité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un drame conjugal, on a l'impression que c'est très objectif, ça n'est pas objectif comme formule. Ça oublie qu'en fait, il y a une victime et un meurtrier.
Merci beaucoup, merci beaucoup Titiou Lecoq, je rappelle que vous êtes journaliste. Docteur Gilles Lazimi, des femmes qui partent, des femmes qui portent plainte et pourtant qui meurent, y compris quand des mesures d'éloignement ont été ordonnées.
Ben, ça signifie que la loi n'est pas suffisamment bien appliquée et les femmes ne sont pas protégées. Très clairement, quand des juges permettent encore un droit de visite à des hommes qui ont agressé et violé leurs femmes, quand on ne met pas les moyens très clairement pour qu'il y ait des téléphones grand danger pour toutes ces femmes, quand on ne prend pas en compte la plainte de ces femmes, parce qu'un grand nombre de ces femmes étaient connues comme victimes de violences. Donc très clairement, là, ben, c'est un passeport pour tuer qu'on laisse à ces hommes et ces femmes ne sont pas protégées. Donc il faut vraiment qu'on les protège. Il y a des dispositifs, il y a des lois. Si les lois étaient appliquées, il n'y aurait pas de problème. Il y a des lieux comme par exemple Douai où un juge systématiquement à la première plainte demandait à l'homme de partir l'héberger dans un centre d'hébergement avec une interdiction d'approcher. Dès qu'il y a la loi qui est annoncée ou la loi qui est mise en place, eh ben il n'y a pas de récidive. Et il y a des lieux où on ne tient pas compte
Pourquoi
des plaintes des femmes.
Pourquoi?
Mais parce que c'est notre société qui, même si on a progressé, il faut quand même qu'on dise très clairement qu'on a progressé, mais il y a encore des lieux, il y a des inégalités territoriales en France, où des juges ne prennent pas en compte la plainte de la femme. Et quand elle porte plainte, on croit que c'est la première fois, on croit que c'est un primo-délinquant. C'est jamais un primo-délinquant dans les violences conjugales, et il faut qu'on cesse de penser qu'il y a une co-responsabilité. Il n'y a pas de co-responsabilité, il y a un agresseur, c'est l'homme, et il y a une victime, c'est la femme, qu'il faut protéger avec les enfants.
Et il y a quelque chose que je voudrais dire, je vais vous laisser parler Soraya juste. On a lancé un appel Facebook pour que les femmes témoignent. On a eu des messages absolument épouvantables d'hommes qui disent « Oui, mais quand la femme parle, elle doit être soumise ». Il y a des gens qui tiennent ces discours et qui osent les dire, qui osent l'écrire sur le site de Priorité Santé en toute impunité en disant « Elles l'ont mérité, il faut se faire respecter », soi-disant cet écrit. Eh bien nous on dit, quand on lit ces messages, on n'est pas d'accord, on en a marre de lire ces messages parce qu'on n'est pas simplement des journalistes, on est aussi des individus, il y a une loi. Cette loi, elle vaut dans ce pays, elle vaut dans d'autres pays. Dire qu'une femme, parce qu'elle a parlé, parce qu'elle a dit non à une proposition qui ne lui plaisait pas, elle mérite un coup, il faut le dire. On est aussi des acteurs, c'est inacceptable, c'est une agression. Soraya Guerras Navarro, je vous laisse la parole.
Merci. Non, c'est pas un gros mot en fait. C'est pas une insulte.
C'est un droit.
Dire non, et c'est pas un gros mot. Je rebondis sur ce que vous disiez concernant les lois, les droits. J'ai eu affaire, moi, à des... Enfin, je suis allée au commissariat, bien sûr, plusieurs fois, poser des mains courantes, parce que au commissariat aussi, on nous dit, non, c'est pas une plainte. Non, portez pas plainte, c'est votre conjoint, c'est le père de votre fils. Portez pas plainte, ça va pas, vous vivez avec lui, vous l'aimez, vous êtes sûr. Et à chaque fois, c'était des hommes qui ont reçu ma plainte.
C'est pour ça, docteur Lazimi, quand on dit, quand on est témoin, quand on sent les choses, il faut le dire, mais encore faut-il que derrière, il y ait une réponse à la hauteur.
Bien sûr, alors, je veux dire qu'on progresse, pas partout malheureusement, oui, et c'est inadmissible qu'on accepte encore des mains courantes au lieu de faire en sorte qu'il y ait des plaintes. C'est inadmissible qu'elles soient pas examinées, comme il y a eu des circulaires dans le passé qui disaient que toutes les plaintes et mains courantes devaient être examinées par un juge. Et c'est inadmissible qu'il n'y ait pas de suite. Donc très clairement, ces témoignages font et sont la preuve qu'il faut améliorer le dispositif. Alors il y a eu un dispositif qui est de pré-plainte sur informatique, pourquoi pas. Il y a la loi sur le harcèlement sexuel, c'est des avancées, mais il faut qu'elles soient appliquées. Des lois, on en a en France depuis longtemps. On a une ordonnance de protection qui est un dispositif majeur. Il faut qu'il soit appliqué, et quand on sait qu'il y a un département où 20% de toutes les ordonnances de protection sont mises en place, c'est la Seine-Saint-Denis, et que toute la France, 80% seulement, elles ne sont pas mises en place. Donc on a des lois, il faut qu'elles soient appliquées.
Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus en Seine-Saint-Denis, ça veut dire que c'est mieux appliqué. Voilà, c'est important de le dire aussi, parce qu'on peut aussi aller dans certains schémas et certains
aussi, très clairement que aujourd'hui les femmes parlent plus des violences et c'est tant mieux. Il n'y a pas plus de violences envers les femmes. Je pense qu'il y en a un peu moins, mais il y en a encore trop et trop insuffisamment pénalement punies.
Et on va les écouter, ces femmes. C'est important d'avoir ces témoignages, des auditrices de Priorité Santé qui ont souhaité s'exprimer. Auditrice de Priorité Santé qui témoigne. Nous allons d'abord partir à Dakar où l'on va retrouver Malika. Nous avons changé sa voix, bien sûr, pour une raison évidente d'anonymat. Malika, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors vous, Malika, vous tenez à nous parler des violences psychologiques, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. En fait, il n'y a pas longtemps, je vivais en fait dans la belle famille. Ma fille a subi des attouchements sexuels. C'est vrai qu'elle n'a pas été déplorée, on ne l'a pas dévergée. Ma fille n'a que 11 ans et la personne qui abusait d'elle a 32 ans. J'ai découvert ça par son petit frère qui va bientôt avoir 3 ans. Il l'a fait devant lui et quand mon petit garçon jouait, il répétait le geste et c'est ce qui m'a interpellée. En fait, j'ai toujours constaté que ma fille n'était pas à l'aise. Et chaque fois que je voulais sortir, elle me demandait de sortir avec elle. Je lui disais de ne pas faire le bébé, qu'elle reste dans la parcelle. En fait, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et le jour où j'ai appris, j'ai parlé avec elle. Je lui ai demandé combien de fois est-ce qu'il a fait ça. Elle m'a juste dit qu'elle ne savait pas, qu'il l'a fait plusieurs fois. Et elle m'a expliqué qu'il l'appelle souvent dans sa chambre. Il lui demande d'enlever les slips et de se coucher. À lui, il monte sur son dos. Et quand elle me parlait de ça, elle pleurait. Et le jour où elle m'avoue ça, elle dit, c'est pourquoi je te demandais qu'à chaque fois que tu sortais, que tu m'amènes avec toi. Alors, j'en ai parlé à ses parents. Sa mère me met confiance, elle connaît le comportement de son fils, elle sait que c'est vrai. Puis j'ai dit à mon mari que j'allais porter plainte. Lorsque j'ai parlé de la police, mon mari était fâché parce qu'il faut préserver l'unité de la famille. Il m'a demandé de rester encore dans la parcelle familiale pour qu'il réfléchisse et qu'il prenne une décision. Alors moi, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas rester dans cette parcelle où je regardais le garçon rentrer et sortir. Donc j'ai pris la décision de prendre mes enfants et aller vivre chez ma mère.
Vous, la violence, c'est votre mari qui vous oblige à vous taire.
Voilà, c'est ce qui me fait le plus mal. Moi, j'ai une licence en informatique des gestion. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être une femme indépendante, une femme libre, mais tout en étant mariée. Mais j'ai constaté que chaque fois, mon mari me disait « Pourquoi tu ne vas pas faire tel travail? Pourquoi tu ne vas pas faire ceci ?» C'est comme s'il était en train de me manipuler. C'est comme s'il voulait que je sois comme un objet pour lui.
Vous-même, quand vous avez pris votre mari, quand vous l'avez épousé, est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que finalement, avoir plusieurs enfants avec lui, c'est quelque chose que vous aviez décidé vous-même?
En fait, si je l'aimais, oui et non. Vous savez, ça fait plaisir aux parents, mais quelque part, il y a des moments où je me posais des questions. Je disais que je devrais être là ou pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous y pensez, vous dites tout ça, c'est terminé?
Oui, madame, c'est terminé. Parce qu'accepter ce genre de manipulation, c'est de moi quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne veux pas être. Et je ne vais pas être ce genre de femme pour que je puisse transmettre ces mauvaises valeurs-là à ma fille. Je ne veux pas qu'elle soit une femme comme ce que j'ai été hier. Parce que j'ai envie de passer à autre chose et je suis en train de passer à autre chose.
Merci beaucoup pour ce témoignage, hein, Malika. Merci d'avoir été en ligne du Sénégal.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Témoignage d'auditrice de Priorité Santé en ligne avec nous du Burundi. On retrouve tout de suite Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous parlons dans cette émission des violences conjugales. Racontez-nous votre histoire.
Quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré un garçon qui est mon mari aujourd'hui. On s'est fréquenté un moment. Un de mes amis m'avait parlé qu'il était un peu agressif, surtout quand il avait bu. J'étais tellement amoureuse de lui que je pensais pas qu'il pourrait me faire du mal.
Comment les problèmes ont commencé? Comment la violence a commencé?
J'avais remarqué chez lui qu'il aimait trop boire, il fréquentait les bistrots tout le temps. Et quand on s'est marié, la première semaine qu'on vivait ensemble, il a commencé à me laisser toute seule à la maison, juste la première semaine. Par après, là, j'ai eu mon bébé et je m'occupais plus du bébé que de lui. Et par après 6 mois de vie commune, c'est la première fois qu'il a mis sa main sur moi.
Est-ce qu'en épousant cet homme, vous aviez imaginé qu'un jour, eh bien, il pourrait vous frapper, vous malmener?
J'ai jamais pensé qu'il pourrait mettre sa main sur moi. Donc chez nous, je suis grandie dans une famille où mon papa, lui aussi, était alcoolique, mais je l'avais jamais vu frapper ma mère.
Il vous a frappé? Ça a recommencé? Qu'est-ce qu'il a fait comme violence sur vous? Comment vous a-t-il agressé?
Un jour, il a voulu me cogner ma tête contre un mur et j'ai eu le réflexe de me protéger avec les bras. Maintenant, ça fait plus de 13 ans que nous cohabitons, que nous vivons ensemble et j'ai toujours des cicatrices. J'ai eu à consulter plus de 3 fois, mais le problème, c'est que quand même une femme qui vit la violence conjugale n'a pas le courage de tout dire, de raconter la vérité. Même arrivée à l'hôpital, j'étais obligée de dire que je me suis cognée quelque part.
Vous dites j'étais obligée. Vous étiez obligée par qui?
C'est la mentalité. Je suis grandie dans une société où quand on est malmené par son mari, on doit protéger l'image de la famille. Je sais pas, les femmes, dans nos coutumes, les familles africaines, on essaie de construire les foyers et on détruit les cœurs. Moi, je condamne les coutumes. On ne compte jamais sur le bien-être de la femme en soi. Or, une femme détruite ne peut pas construire un foyer paisible. Or, il y a des enfants. Comment ils vont grandir dans une telle famille où il y a l'austérité? Et parce que je passe mes journées au travail et lui, il ne travaille pas. Donc, lui, il reste au lit toute la journée. Moi, je travaille, je suis obligée de l'attendre le soir. Et arrivé à 2h du matin, il m'oblige à faire l'amour avec lui alors qu'il me dégoûte. J'espère que vous me comprenez.
Mais bien évidemment, agressivité, viol, des coups, comment ne pas comprendre, hein, Sonia? Mais aujourd'hui, vous parlez. Pourquoi est-ce que vous avez envie? Pourquoi vous avez besoin de parler?
Parce que je me suis rendu compte que j'ai enduré beaucoup de choses. Mais maintenant, je suis à bout. J'ai envie d'exploser. Donc, je cherche des personnes, peut-être étrangères, qui ne me connaissent pas pour pouvoir parler avec eux. Comme ça, je me sens un peu soulagée. C'est ça qui m'a donné le courage de pouvoir témoigner aujourd'hui.
Merci pour ce cri du cœur parce que il a toute sa place dans cette émission et bon courage. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Bujumbura, Dakar, ici en France, Aurélia Guiras Navarro. Quand vous entendez ces autres femmes qui sont passées par des choses différentes mais des choses communes, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que cette femme a raison parce que la seule solution, c'est de sortir de cet isolement et de ce silence. Moi, je peux pas dire que j'ai été battue. Il y a eu des tentatives de bagarre, mais j'étais pas battue. Mais par contre, les violences psychologiques et morales et les dommages collatéraux sur la famille et les enfants, elles étaient bien réelles et elles m'ont bien fait mal.
Docteur Gilles Lazimi, il y a justement un côté, on dit violence conjugale, on voit des femmes avec le visage tuméfié, mais il y a des douleurs intérieures qui sont épouvantables. Il y a des manipulations, il y a des humiliations du quotidien, et puis il y a le viol conjugal.
Quand je repense à toutes les patientes que j'ai rencontrées qui ont été victimes de violences, parce qu'elles gardent toujours ce souvenir, hein. Il y a une cicatrice qui est là, qui est présente, et ce dont elles se souviennent le plus, c'est moins souvent les coups. Mais c'est surtout les mots blessants et les humiliations. Et ça revient sans cesse. Et c'est toujours cette musique qui est là, qui les affaiblit et qui est présente. Donc on va les aider à essayer de ranger ça dans une bibliothèque pour que ça sorte le moins souvent possible. Et ce qui est important dans les témoignages qui ont été donnés, bien sûr, on parle de toutes ces violences, parce qu'il n'y a pas violence physique ou violence sexuelle seule. Il y a forcément, petit à petit, une mise en place de violences verbales, d'allers-retours, de propos qui sont ambigus, où on ne comprend pas. Et puis, c'est ensuite les violences physiques qui vont arriver, ensuite les violences sexuelles.
On parle de cycle.
Voilà, et on parle de cycle, bien évidemment, c'est pas le premier jour, la première gifle, hein, ça va mettre beaucoup de temps à s'installer. Et ce qui est très important avec ces femmes victimes de violences conjugales, c'est qu'on en ait une, qu'on en ait 10, qu'on en ait 20 ou 10 000, c'est toujours la même histoire. Ça veut dire qu'il y a vraiment une stratégie qui est mise en place. Il y a d'abord une belle histoire d'amour.
Il y a des symptômes, c'est comme il y a quelque chose de sanitaire, d'une maladie, ce côté...
Qui va se mettre en place, il y a une emprise qui va se mettre en place. Mais d'abord, il y a la séduction. Ensuite, il va y avoir l'isolement de la victime, avec des propos « je t'aime, je ne veux que toi, je ne veux que te voir ». Mais derrière ça, c'est « on va éliminer la famille, les amis ». Ensuite, il y a l'humiliation avec les petites blessures. Les blessures qui vont...
Oui.
C'est comme des hémorragies narcissiques que petit à petit, la femme va pas comprendre ce qui se passe. Et elle va être transformée en objet, et elle va être mise sous terreur. Et puis, il y a le poids de la famille. Hein. On a vu cette famille qui est une famille d'agresseurs, où personne ne prend parti pour les victimes. On prend parti pour la famille et l'agresseur. Et petit à petit, on culpabilise la femme et on inverse la responsabilité. Elle pense que ça va être de sa faute si elle dit. Et non. Et ça, c'est très important de parler de la stratégie de l'agresseur avec les femmes victimes de violence, parce qu'elle vous dit, mais comment vous savez? Mais c'est toujours la même histoire. Et petit à petit, on va les aider à reprendre en main leur vie, à comprendre comme Sonia, qui comprend petit à petit, et qui dit, c'est pas possible.
Et justement, ce qui est important, hein, justement, pour sortir de ces histoires, c'est le travail de repérage, de dépistage. Pour en parler avec nous en ligne, Fatima Le Griguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, Fatima. Clinicienne, coordinatrice violente faites aux femmes pour le site pilote régional du psychotraumatisme à Paris Nord. Comment s'est créée votre unité, une unité bien spécifique, bien ciblée?
Eh bien, tout est parti, en fait, de mon travail aux urgences, puisque j'ai exercé aux urgences pendant une dizaine d'années. Et nous avons créé un groupe de travail pluridisciplinaire qui permettait d'accompagner, d'identifier les femmes victimes et de leur proposer également un accompagnement psychologique, ainsi qu'une orientation aussi vers les services d'aide aux victimes, un accompagnement juridique, et également la possibilité d'appeler les commissariats pour qu'ils puissent intervenir sur place et pouvoir faciliter le dépôt de plainte pour ces femmes-là.
Vous êtes au carrefour de multiples acteurs, parce que c'est très important, le côté global de cette prise en charge, justement, pour ne pas laisser quelqu'un, comme ça, à un moment donné de ce parcours, toute seule et, justement, extrêmement vulnérable.
Oui, nous distinguons, en fait, d'une simple consultation de psychotraumatisme, puisqu'on est dans l'idée aussi d'intervenir dans les différents services hospitaliers. Donc, dès lors qu'on signale une femme victime dans n'importe quel service à l'hôpital, que ce soit la douleur, aux urgences, en matière gynéco, puisque bien souvent elles viennent là. Donc, à ce moment-là, on intervient en direct, on se déplace, et donc ça permet déjà d'avoir un premier contact avec la personne, de faciliter la mise en confiance, et puis de proposer aussi un suivi, et puis d'expliquer davantage les choses, plutôt que de remettre une liste de papiers, une liste d'adresses, sans forcément expliquer les choses.
Fatima Le Griguer, quand vous jugez qu'il y a vraiment urgence, quand vous avez jugé de la dangerosité du conjoint ou de l'ex-conjoint, qu'est-ce que vous faites?
Alors, chez nous, la particularité, c'est qu'on a mis en place des protocoles particuliers donc qui permettent d'hospitaliser les femmes victimes, soit au service des urgences, nous avions les portes, en matière gynéco également, puisqu'on a un partenariat très très fort avec la matière gynéco, mais aussi avec la pédiatrie, parce que bien souvent, il faut aussi hospitaliser les enfants en bas âge. Donc ça nous permet justement de sécuriser la personne. Donc on enregistre sous X, et la personne, ça peut permettre aussi d'appeler la police, et puis qu'elle puisse, les services, les autorités puissent venir et recueillir la plainte de la personne en direct. Ça facilite aussi le cheminement vers l'accompagnement juridique, l'accompagnement psychologique, et puis l'établissement des certificats d'ITT, donc docteur de l'asile bien habitué par rapport à ça.
Fatima Le Griguer, dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que certaines choses très concrètes peuvent et doivent être améliorées, justement, pour favoriser la sécurité, la sécurisation de ces femmes?
Ah, complètement. Je pense que les chiffres quand même ont explosé depuis le début de l'année. Donc il y a encore trop de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint.
Plus de 50 donc, femmes en France hein, depuis le mois de janvier.
Plus de combien 66.
Plus de 66, alors qu'on n'a même pas encore passé 6 mois de l'année.
Tout à fait, donc c'est trop. Donc je pense que les femmes, elles parlent plus. Elles ont plus le courage de dénoncer des violences, quelles qu'elles soient. Donc, j'entendais le docteur Lazini qui parlait des violences psychologiques. Je pense que les violences psychologiques ne sont pas suffisamment accompagnées. Et pourtant, ça peut mener à des tentatives de suicide. Ça peut mener à une détérioration au niveau du narcissisme primaire. Et donc, une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et ça nuit sur tous les plans. Donc là, il y a nécessité d'accompagner, de sécuriser les personnes. Donc, on a déjà l'ordonnance de protection. Donc, qui est très facilitant au niveau des démarches et qui permet justement de sécuriser les personnes, de les mettre à l'abri, mais c'est pas suffisant. C'est souvent il y a l'éviction du conjoint du domicile, mais il peut y avoir la famille, des personnes que l'agresseur connaît, qui
peuvent le renseigner.
Aussi, tout à fait. Donc, il y a nécessité de sécuriser, d'avoir davantage d'hébergement.
Merci beaucoup, Fatima Le Griguer. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. On disait davantage de prise en charge psychologique. Docteur Gilles Lazimi, j'ai feuilleté les documents officiels. Quand on est victime d'agression, il y a beaucoup de choses sur le plan pénal, sur le plan du logement. Mais j'ai pas vu noir sur blanc écrit prise en charge psychologique. Est-ce que ça a changé?
Ça change, la preuve, il y a 10 centres aujourd'hui qui sont créés, qui se mettent en place, dont celui dont parle Fatima. Malheureusement, 10 centres, c'est largement insuffisant. Il y a très peu de psychologues qui sont formés au psychotraumatisme. Et puis, il y a absence de remboursement des consultations de psychologues. Et là, on a vraiment besoin, et c'est une demande du Haut Conseil depuis maintenant 6 ans, qu'il y ait une gratuité pour toutes les victimes de violences conjugales. Juste, je voulais revenir sur l'importance de porter plainte, mais bien sûr qu'on va inciter à porter plainte. Il n'est pas question qu'un professionnel soit neutre devant une femme victime de violence. Il faut lui dire qu'elle peut porter plainte. Mais il ne faut pas le faire à sa place et il faut le faire avec elle. C'est des femmes qui ont été rabaissées, qui ont été annihilées, qui sont sous emprise. Il faut les aider à reprendre estime d'elles-mêmes et les accompagner pour qu'elles soient en capacité de porter plainte. Et là, on va pouvoir les aider. Et bien sûr, il faut travailler en réseau. Il est hors de question de penser qu'on travaille seul à seul. Il faut des associations, des jeux. Et il faut des lieux d'hébergement. Il faut vraiment travailler à plusieurs pour aider ces femmes, pour qu'elles sachent qu'on est plusieurs à l'accompagner, pour qu'elles sachent qu'elle n'est pas seule et qu'on va pouvoir l'aider à ce qu'elle redevienne auteur de sa vie.
Soraya Guerras Navarro, retrouver confiance en les autres, retrouver confiance en soi, justement, être responsable dans cette démarche et puis ne pas culpabiliser. Vous, personnellement, vous êtes appuyé sur quel réseau, sur quel praticien pour être là où vous êtes aujourd'hui ?
Fatima Le Griguer était ma psychologue.
Donc voilà. Donc, vous l'avez rencontrée comment? Comment vous
êtes
allée?
Je l'ai rencontrée par le biais d'un centre de santé à Tremblay en France qui m'ont conseillé d'aller là-bas. Et en fait, moi, je suis allée moi-même aux urgences et j'ai atterri aux urgences car j'ai fait plusieurs tentatives de suicide dans ma vie.
Quand vous étiez comme ça, en désarroi total, vous êtes allé aux urgences, les urgences vous ont orienté, mais chez vous, vous saviez à qui vous adresser ou vous vous sentiez totalement seul, totalement isolé, sans recours?
On se sent toujours seul.
Justement, sortir de cette solitude, informer les femmes, même si elles ne sont pas en danger aujourd'hui, savoir à qui s'adresser demain si ça
arrivait. Déjà, son médecin. Hein, ses amis, sa famille, hein, il y a quand même heureusement des
maisons de quartier.
Les maisons de quartier, les travailleurs sociaux, qu'on forme de plus en plus. Donc, mais déjà pouvoir en parler à quelqu'un en confiance, dans le cabinet médical, c'est un lieu important. Encore faut-il que le médecin pose la question pour aider ces femmes, car elles ne vont pas spontanément parler. Maintenant, si on leur pose la question, elles répondent.
Alors, véritable urgence de santé, véritable urgence sociale, on l'a bien compris, et tout de suite, on va partir pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, Ndaï Fatou Faye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue clinicienne, secrétaire exécutive de l'ONG Centre de guidance infantile et familiale de Dakar. Ndaï Fatou Faye, tout à l'heure on a entendu un témoignage d'une auditrice au Sénégal. Est-ce que vous voulez réagir à ce témoignage qu'on a entendu ?
Oui, donc j'ai commencé d'abord par présenter notre centre, qui est une ONG qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, mm-hmm. et spécialisée dans la prise en charge psychosociale des victimes de violences. Mm-hmm. Donc ces trois dernières années, nous avons eu à accueillir et accompagner plus de 400 victimes, mm-hmm. avec l'appui de l'Union européenne. Et ces victimes sont pour la plupart des femmes et des enfants. Donc, en fait, nous recevons beaucoup d'adultes à l'instar du témoignage que vous venez d'entendre. Et pour la plupart, en fait, au départ, ils viennent consulter pour des états dépressifs avec beaucoup de souffrances derrière, qui cachent bien souvent des violences conjugales. Mais malheureusement, les patients ont beaucoup de pudeur à révéler, en fait, ces violences subies dès qu'ils arrivent en consultation.
Vous êtes psychologue clinicienne, j'imagine que justement vous êtes capable de repérer les signes, repérer les symptômes, repérer les mots MOTS qui cachent justement qu'il y a eu derrière des insultes ou de la soumission de la part d'un conjoint.
Bien sûr. Vous savez, il y a beaucoup de types de violences, mais ici au Sénégal, les violences verbales ne sont pas toujours considérées comme étant de la maltraitance ou étant une violence, en fait, alors qu'elles peuvent être plus destructrices, que celles physiques. La collectivité participe également bien souvent aux violences, surtout à l'égard des femmes, avec des belles familles souvent qui peuvent en être les auteurs. Car ici, au Sénégal, la conjugalité, en fait, dépasse les limites du couple et cette violence exercée par souvent les belles familles également, et d'autant plus lourde à supporter car implique d'autres acteurs.
Et est-ce que vous constatez que les mères ont plus de facilité, justement, il y a un élément déclencheur lorsqu'un enfant est en jeu, et c'est à ce moment-là, Ndaïfa Toufaï, qu'elles vont aller consulter?
Oui, bien souvent, si, je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait un enfant pour que ces femmes, en fait, osent aller consulter. Mais au départ, en fait, d'emblée, elles ne viennent pas parler directement, en fait, de violence conjugale. Ce sera, en fait, une consultation plus pour les insomnies, une dépression. Mais souvent, derrière, nous voyons qu'il y a une violence conjugale. Voilà.
Et puis, il y a aussi cette menace latente qui est activée, qui est agitée par la belle famille ou la famille, de dire que si tu parles, eh bien, tu vas faire voler en éclats cette belle famille.
Voilà. En général, en fait, c'est un choix à faire entre supporter, en fait, cette maltraitance et sauver son mariage, en fait. Donc, c'est des femmes qui sont un peu dans la psychose, en fait, dans cette peur, en fait, de vouloir sauver ce mariage et en même temps, en fait, qui subissent, en fait, au quotidien ces violences.
Et votre structure, votre ONG a développé un projet ponctuel qui permet de toucher le cœur de la communauté pour mieux, justement, diffuser ce message de sensibilisation.
Bien ça, nous faisons beaucoup de communication en fait pour amener les gens à comprendre ce qui se joue dans le couple. Nous avons ainsi initié un projet stratégique d'observatoire mobile de prévention des violences qui va vers les communautés, poser des débats en termes de prévention. Et nous voulons à travers ce projet participer à la prévention en fait de toutes les formes de violences à travers le pays. Donc nous sillonnons le pays en fait avec un camion et nous allons à la rencontre des populations pour expliquer les facteurs de risque mais également les conséquences qui peuvent survenir en fait.
Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent dans la société sénégalaise, que les femmes parlent davantage ou que finalement, pour ces questions-là, eh bien, cela reste assez figé?
Alors, je pense que cela dépend surtout du niveau intellectuel de la femme, parce que en fait, en capitale, les femmes en fait qui sont instruites ont plus tendance à aller dénoncer ou à aller consulter en fait lorsqu'elles sont victimes de violences que les femmes en fait qui habitent dans les zones les plus reculées.
Merci.
Et qui ne connaissent pas forcément leurs droits.
Merci infiniment pour cet éclairage, Ndaïfa Toufaï. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Cette inégalité sociale face à la violence conjugale, docteur Gilles Lazimi, est-ce que vous la retrouvez en consultation ou pas?
On peut la retrouver. On avait fait des études de repérage dans différents lieux. Globalement, toutes les femmes peuvent être victimes de violences. Mais si, par exemple, on questionne les femmes migrantes précaires qui sont sans toit et qui arrivent avec des situations de conflit actuellement dans le monde, on s'aperçoit qu'elles ont été victimes de violences beaucoup plus dans leur pays, qu'elles sont victimes sur le trajet et qu'elles sont victimes en plus en France d'un agresseur supplémentaire qui est l'hébergeant. Donc très clairement, ces situations vont aggraver et on voit aussi des demandeuses d'asile qui n'ont pas de sous, qui sont en attente de dossiers et de réponses, qui se retrouvent à la rue et qui sont en situation de subir des violences sexuelles pour dormir, manger. C'est inadmissible. Donc il y a effectivement des inégalités sociales de santé, mais sachons bien que toutes les femmes, dans tous les milieux, subissent ces violences.
Alors, on parlait justement tout à l'heure prise en charge au Sénégal, dans un premier temps pour dépression. On a vu tout à l'heure avec Fatima Le Griguère ce repérage, ce dépistage. J'aimerais qu'on parle à présent, docteur Gilles Lazimi, des conséquences pour la santé, pour le corps. Quand on est maltraité, ça fait mal et ça se ressent sur la santé physique, physiologique.
Ah ben c'est clair. Quand on ne peut pas parler des violences qu'on subit, eh ben c'est le corps qui va parler. Et le corps, il peut parler de différentes façons. Il peut y avoir des pathologies digestives et on a des femmes qui, pendant 20 ans, se sont plaintes de colopathies digestives, de douleurs abominables, sans pour... En aucun cas, on a posé la question des violences. Et pourtant, c'est une des raisons. On a des patientes qui se plaignent de douleurs articulaires ou de fibromyalgie. C'est 8 points douloureux au niveau articulaire. Et très clairement, quand on a été victime de violence, on a 3 fois plus de risques d'être fibromyalgique. On a des patientes qui ont des maux de tête en permanence, et on sait pourquoi ces maux de tête en permanence. Ça peut être les pensées qui sont, qu'elles ressassent des violences qu'elles ont subies. Et puis, il y a tous les tabous psychiatriques, entre guillemets, de psychotraumatisme, où elles sont soit en état de dissociation, elles sont ailleurs, elles sont anesthésiées et elles peuvent subir des choses épouvantables, et ou alors elles sont en situation de sécurité et on est tellement bienveillant avec elles qu'elles sont en situation de peur car elles vont revivre les violences avec les cauchemars, les flashbacks, et ça provoque des tentatives de suicide, des syndromes dépressifs. On a vraiment, toute la médecine générale peut être représentée à travers ces tableaux, et la seule façon pour que les femmes parlent, ben, c'est de leur poser la question des violences. Et si on leur pose la question des violences, eh ben, on a une réponse. On a de réponses qu'aux questions qu'on pose. Pour aider les femmes victimes de violences à parler, il faut clairement avoir une question explicite. Avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles? Si vous posez la question, là, vous allez pouvoir les aider parce que on va pouvoir mettre des mots sur leur souffrance. On va pouvoir leur parler des tableaux cliniques qu'elles présentent et du lien avec les violences qu'elles ont subies. On va leur redonner confiance. On va les renarcissiser et on va les soutenir avec ce réseau. Et ainsi, elles vont pouvoir redevenir auteurs de leur vie. Et c'est clairement ce travail de la relation que tout le monde peut faire, pas simplement les professionnels de santé.
Alors, on a entendu un différent témoignage, Soraya Guerras Navarro. Non seulement on a entendu exprimer la peur pour soi, mais aussi la peur pour ses enfants, la peur qui fiche, qui bloque. C'est souvent un argument avancé, hein, dans certaines cultures. On l'a entendu tout à l'heure avec le témoignage au Sénégal. La structure familiale, attention, tu vas casser la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces femmes qui nous écoutent, pour justement sortir de cette peur? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, après ce parcours, pour retrouver confiance, même si on reste fragile, retrouver confiance malgré tout?
Moi, je dirais qu'à contrario, elles vont réparer la famille, si elles osent sauver leur peau. Et souvent, on ne sauve pas notre propre peau, mais c'est notre instinct maternel qui fait en sorte qu'on sauve la peau de nos enfants et la nôtre. Mais on essaye.
Mais on comprend aussi, peut-être après, dans un travail, comment on a accepté tout cela et oui. Tout ce qu'on n'acceptera plus.
Absolument. Moi, maintenant, je coche très clairement des cases. Je coche des cases sur les gens qui m'entourent, sur les hommes que je rencontre, sur les amis, sur les membres... de ma famille, de sang ou de cœur, en fait, il faut de la bienveillance, il faut de l'entraide, parce qu'en fait, on n'y arrive jamais seul, et la solution, c'est vraiment de libérer la parole, comme le disait si bien le docteur Lazimi, libérer la parole, c'est-à-dire poser la question pour autoriser les femmes à parler, ou que ces femmes-là s'autorisent à parler à leur amie, à leur voisine, aux mamans qu'elles rencontrent, parce que moi, les premières doses de liberté que j'ai prises, c'était quand j'accompagnais mon enfant, je ne travaillais plus, d'accord? Je ne travaillais plus. J'allais dans une maison de quartier où il y avait des rencontres parents et enfants, petite enfance.
Donc c'était reprendre cet espace de parole et se confier. Donc oui. Si vous êtes victime, confiez-vous, parlez-en. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre merci invitation, à Soraya Guerras Navarro, hein, d'avoir témoigné. Merci beaucoup, docteur Gilles Lazimi. Hélas, le temps nous presse. Hein. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste au centre de santé de la ville de Romainville, en Seine-Saint-Denis. Tout de suite, on va donner la parole à une autre jeune femme engagée pour le respect des droits de chacun et de chacune au sein de la communauté. La lutte contre les mutilations sexuelles féminines, au-delà actions militantes contre les mariages précoces, contre les différentes manifestations de la domination masculine, des causes que vous incarnez, des combats que vous portez. Nailantay Langete, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Nice, vous êtes kényane, ambassadrice de l'AMREF, hein, cette ONG qui mène des programmes de santé publique dans une trentaine de pays africains. Nice, comment est-ce que vous définissez votre mission aujourd'hui?
Je
me définis comme une activiste venant de Kenya qui soutient des causes des droits de femmes, donc non seulement en termes d'excision, mais aussi sur des problèmes de mariage précoce, éducation des filles, etc.
Nice, Nailantay Langete, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous est venu justement cette intention, cet engagement pour les femmes? Est-ce que vous étiez enfant? Comment ça s'est passé?
Cette conscience commence à émerger à l'âge de 8 ans, un peu moins de 8 ans, quand je voyais mes amies filles à l'école qui ont subi cette terrible excision, qui par la suite ne pourraient plus aller à l'école, et mes amies qui se sont mariées par la suite à 10 ans, et je me suis dit que ce n'était pas une vie que j'aimerais mener.
En fait, il s'agit
d'éduquer la communauté, de sensibiliser les gens aux problèmes liés à l'excision. Et c'est non seulement un problème de santé, mais c'est aussi étroitement lié aux droits de l'homme. C'est aussi une question culturelle. Et pour changer la mentalité des gens, ça prend beaucoup de temps.
Vous disiez, ça remonte à très loin, ça remonte à votre enfance. J'aimerais que vous décriviez aux auditeurs de Priorité Santé vos origines et la communauté dont vous êtes issus.
I come from the Maasai community, from the southern part of Kenya.
Ma communauté s'appelle Maasai. C'est dans le sud de Kenya. C'est une communauté connue pour son attachement à sa propre culture, sa tradition. Bien sûr, on a une partie de culture qui sont bonnes et d'autres qui sont plutôt mauvaises. Par exemple, l'excision et mariage des enfants. Bien sûr, on travaille étroitement donc avec les personnalités influentes de la communauté pour s'assurer que la transition se fasse dans des bonnes conditions.
J'ai une dernière question. Quand on entend le terme domination masculine, ça paraît quand même une notion relativement occidentale. Est-ce que ce genre de message, ça passe quand on est en Afrique, quand on est au Kenya et quand on est chez les Maasai?
So I think when we talk about probably women empowerment or even gender equality, remember
that. Bien sûr, je pense que c'est non seulement en fait un problème de l'Afrique, c'est un problème global à l'échelle internationale. Dans ma communauté, c'est d'abord commencé par des conséquences liées à la santé, puisque on parle de l'excision, mais ça se limite pas à ça. Les femmes veulent aussi avoir une forme de leadership. Elles veulent aussi avoir une voix dans la communauté. Je pense que c'est universel. On voit les femmes qui aujourd'hui occupent des places importantes dans la société, des femmes présidentes, des femmes dirigeantes d'entreprises. Et ce sont des femmes puissantes et courageuses. Je pense que donc, elles ont toutes les chances pour réussir et elles se doivent avoir la même opportunité.
Merci beaucoup et bon courage pour la suite de votre action. Nice Nailantay Langete d'avoir répondu en tout cas aux questions de Priorité Santé.
Answering my questions.
Et Priorité Santé, c'est fini. On va se retrouver lundi. Hein. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.